Radio Capi.
Oh, Capi.
La grande édition du journal parlé de la mi-journée, c'est tout de suite avec Grace Amzati.
Au sommaire de ce journal, le gouverneur de la Tchopo déclare officiellement l'épidémie de choléra dans sa province. Depuis le mois de février dernier à ces jours, plus de 290 cas sont notifiés, dont 57 décès. Alerte Paulin Lendongolia qui appelle à une intervention urgente du gouvernement central et de ses partenaires afin d'éradiquer cette maladie. Plus de 600 habitants de la commune de Kisenso, dont des enfants sinistrés des dernières pluies dans la capitale, ont besoin d'assistance. Le bourgmestre de cette commune, Godefroy Atuel, lance un SOS. Toujours au sujet des dégâts liés aux inondations à Kinshasa, notre invité Kwete Minga Colme-Pierre, âgé de 83 ans et résident depuis 1992 du quartier des Bonhommes, l'un des plus touchés par cette catastrophe de la capitale, recommande aux autorités congolaises de prendre des dispositions fermes et concrètes pour protéger la population. Vous l'entendrez. Avant d'aller plus loin, sachez qu'au moins 22 personnes ont péri à la suite du naufrage d'une baleinière dénommée Jados dans la nuit du lundi à ce mardi 8 avril sur le fleuve Congo. L'accident s'est déroulé plus précisément à Maïta, une localité située à plus de 30 km de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Ce bilan est encore provisoire selon plusieurs sources. La baleinière avait quitté la ville de Mbandaka pour le marché des Mobenzeno à plus de 40 km de la ville. Mesdames et messieurs, bonjour. Santé. La province de la Tchopo est affectée par le choléra. Le gouverneur des provinces, Paulin Lendongolia, l'a déclaré officiellement hier dans la soirée au cours d'un café de presse. Selon le rapport du service technique, des 20 échantillons envoyés à l'INRB à Kinshasa en février dernier, 3 cas se sont avérés positifs. Le bilan actuel fait état de 292 cas, dont 57 décès. Tout en sollicitant l'appui d'urgence du gouvernement central, Paulin Lendongolia exhorte ses administrés à l'observance stricte des mesures d'hygiène, de l'eau et des aliments. Les explications qui s'en gagnent avec Jacques Mkongolé.
Le premier cas du choléra a été détecté en février dernier à Loa, dans le territoire d'Ubundu, en amont du fleuve Congo. Entre le 24 février et le 2 mars dernier, cette infection diarrhéique s'est propagée dans d'autres zones de santé rurale, notamment Wanyarukula et Yakusu, ainsi que dans la zone de santé urbaine de Makiso. Actuellement, la situation devient de plus en plus inquiétante, déclare l'autorité provinciale. 292 cas sont enregistrés, dont 57 décès, d'où cet appel à l'appui du gouverneur de province.
De la gravité de cette situation, je déclare officiellement l'épidémie de choléra dans la province de la Tchopo. Face à cette urgence sanitaire, nous lançons un appel à l'action. Nous sollicitons l'urgence, l'appui du gouvernement central, de nos partenaires de santé et des organisations humanitaires pour renforcer notre capacité à contenir et à éradiquer cette épidémie.
Par ailleurs, il insiste sur la nécessité d'observer strictement les mesures d'hygiène à ceux qui seraient atteints. Le gouverneur leur conseille de se rendre rapidement dans une formation médicale la plus proche pour des soins appropriés. Enfin, Paulin Lendongolia déclare que des mesures supplémentaires seront prises ultérieurement pour renforcer la riposte contre cette épidémie. Jacques Mkongolé, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Ituri, le poste de santé de Kigonze est situé à proximité du site des personnes déplacées du même nom éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Pas de médicaments ni d'autres intrants pour les soins, ce qui ne permet pas une bonne prise en charge des malades en majorité des personnes vulnérables. Conséquence, la montée des cas de décès parmi les déplacés. Martial Kiza Biamungu a visité aujourd'hui cette structure sanitaire avant ses journaux. Voici son reportage.
Construit en bois en forme d'une maison verticale au moins 15 mètres de longueur et 5 mètres de largeur, le poste de santé de Kigonze a été érigé à cet endroit en 2021 par Caritas. C'était pour répondre à une urgence, à savoir venir en aide à des milliers de personnes déplacées qui affluaient vers Bouya en fuyant les attaques de la Côte d'Ego dans leur village en territoire de Djougou. À ce jour, cette structure ressemble à un dépotoir. Devant nous, une petite pièce qui sert de salle d'accouchement. On y trouve un petit lit quelques ciseaux posés sur une table. Pas de pince, ni de gants ou produits stérilisants. Juste à côté, un petit berceau, presque un lambeau, qu'on utilise pour l'observation des nourrissons. Dans la petite salle d'hospitalisation, c'est le même décor triste. Deux petits lits amortis, presque pas de lumière. Des conditions qui ne permettent pas à une bonne prise en charge des malades, dont la majorité sont des déplacés des sites de Kigonze. Ces derniers se livrent à l'automédication, ce qui les expose à toutes sortes de risques. La responsable plaide pour une intervention rapide pour sauver des vies humaines. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, elles sont plus de 600 ces personnes sinistrées des dernières pluies dans la commune de Kisenso, ici à Kinshasa. Parmi elles, de nombreux enfants. Elles sont regroupées dans trois sites dans différents quartiers. Elles ont besoin d'assistance, nous dit Godefroy Atuel, bourgmestre de cette commune. Certaines attendent que les eaux baissent pour retourner chez elles, tandis que d'autres n'ont plus d'abri. Godefroy Atuel décrit la situation au micro de Benjamin Moudoumbi.
Maintenant, nous sommes à 4 morts. Un mort pour le quartier de Ndingi, 2 morts pour le quartier Nsola et 1 mort pour Kisenso-Ka. 3 morts sont déjà enterrés, il nous reste un seul. Et les sites de sinistrés, nous les avons répartis en 3. Il y a un site pour Dingi Dingi, un site pour anciens combattants et un site pour Kisenso-Ka. En attendant, la situation évolue tout doucement, mais c'est déplorable. Ce sont des centaines de familles ou des milliers de personnes qui sont sans abri, qui sont vraiment en difficulté. Et nous espérons que le gouvernement provincial va réagir dans sa peine.
À propos de ces inondations, sachez que la situation humanitaire reste alarmante au quartier Ndanou, commune de Limété. Plusieurs familles sinistrées passent la nuit dehors avec les enfants et manquent de tout pour survivre. Trio Banzé signe ce reportage.
Sur place, au quartier Ndanou, c'est l'émotion et la déception qui règnent chez les habitants. Plusieurs familles, dont des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des personnes vivant avec handicap et des enfants, ont passé leur deuxième nuit dehors. Pas d'eau ni électricité. Ces sinistrés ne savent où et comment trouver à manger.
On a tout perdu comme le bien matériel. On ne dort pas, on est toujours début du matin jusqu'au soir. Déjà, ce qui nous manque, c'est être chez soi. Donc, c'est assez compliqué. Et je pense à la nourriture, parce que c'est pas tout le monde qui a l'occasion de faire la provision. Je suis enceinte, je sais pas comment ça fait.
Par manque de solutions, certaines familles restent perchées avec leurs enfants sur les toits de leur maison en étage. D'autres se déplacent par pirogue pour trouver à manger.
Je suis parti comme ça acheter quelque chose à manger et puis je rentre pour donner à la famille. Je n'ai pas où aller.
Sur la trentaine de morts enregistrés jusque-là, l'ambulance de la Croix-Rouge vient de récupérer des autres corps. Parmi les morts se trouve un papa aveugle de 20 ans. Quand l'eau des pluies a commencé à envahir son habitation, il a préféré laisser partir sa femme et ses enfants pour rester mourir seul. Sa femme est inconsolable. Entre-temps, des pirogues continuent à faire des navettes à la recherche d'autres corps qui seraient encore sous les eaux. Ici, la population s'est dit abandonnée et demande une assistance humanitaire urgente.
Direction la province du Sud Kivu. La visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale à Uvira hier a permis de clarifier la marge des responsabilités des Wazalendo vis-à-vis des FARDC dans la région. Le vice-premier ministre a dénoncé certains acteurs politiques ressortissants d'Uvira qui, une fois à Kinshasa, prétendent parler au nom des Wazalendo, mais qui, en réalité, ne cherchent que leurs intérêts personnels. Désormais, les Wazalendo dépendent exclusivement du coordonnateur national de la réserve armée de la Défense, RAD, le général Padiri Boulenda a martelé le VPM lors des échanges avec les représentants des différentes couches de la population dans la ville d'Uvira devenue le siège des institutions provinciales du Sud Kivu depuis la prise de Bukavu par les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Un acteur de la société civile locale qui a participé aux échanges nous en donne ici l'essentiel.
Le gros du message du VPM, c'était de venir fortifier et voir la situation qu'il y a ici à Uvira. Et il a présenté le plan du gouvernement et le programme et l'intention de libérer le territoire occupé par l'ennemi. Il a commencé par les cérémonies de remise et reprise entre le commandant région sortant et le commandant entrant. Et après, il a rassemblé la notabilité, les Wazalendo, les jeunes, les femmes, les sociétés civiles dans la salle où nous avons présenté les mots en lui montrant notre inquiétude du délaissement du gouvernement depuis presque 2 mois déjà, depuis la prise de Bukavu. Nous lui avons présenté comment ils peuvent délaisser les Bazalendo qui ont résisté à faire que Uvira ne soit pas tombé entre les mains de l'ennemi. Et il a présenté les regrets de comprendre qu'il y a certaines personnes, des politiciens d'Uvira qui font déjà le système Wazalendo un business. Là-bas, on leur donne de l'argent et ils viennent ici, ils ne donnent absolument rien.
La remise est reprise à la tête de la 33e région militaire présidée par le vice-premier ministre de la Défense concerne le commandant sortant, le général-major Yav Yavouli et son successeur, le général de brigade Dunia Kashindi. Et en Ituri, une dizaine de civils dont des femmes et des enfants ont été tués en l'espace de 2 semaines lors des attaques des présumés rebelles ADF dans le territoire d'Irumu. Des structures de la société civile précisent ce mardi que les victimes sont tuées à leur domicile ou dans leur champ, à la machette ou à l'aide de fusils. Ces structures citoyennes déplorent ce qu'elles qualifient de léthargie des opérations Shuja contre les ADF dans cette région. Le point à Bounia avec Ezekiel Mousalia.
La situation sécuritaire restait préoccupante dans plusieurs entités du sud du territoire d'Irumu, reconnu comme l'épicentre des exactions des rebelles des ADF. D'après des acteurs de la société civile locale, au moins 5 incursions de ces hors-la-loi ont été enregistrées la semaine dernière, à l'issue desquelles de nombreux civils ont perdu la vie et leurs maisons incendiées par les assaillants. Ils citent par exemple les cas du groupement Banda Vilemba où 8 civils ont été tués dimanche à la machette. Un autre cas similaire a été signalé dans les villages Sokoto Tano et Kandoui, où des sources locales parlent d'un mouvement des populations observé depuis lundi dans la zone. L'ONG Coalition Associative Résolue pour la Défense des Droits de l'Homme, Coardo, dit constater avec regret l'absence des opérations Shuja contre les ADF dans la région, son coordonnateur John Kihimba.
Il y a la présence des Ougandais, mais qui n'informe rien actuellement. Nous sommes en train de nous demander une question. Pourquoi la présence de la mutualisation des forces de la vallée se coûte quand bien même ils ne font pas des patrouilles de combat?
L'administrateur du territoire d'Irumu précise que les opérations Shuja sont toujours en cours. Le colonel Siro Simba parle toutefois du relèvement de certaines unités combattantes qui ont été redéployées ailleurs pour des opérations. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Des maisons cambriolées, des personnes blessées à coups de machette et de nombreux biens emportés et une femme violée, ceci s'est produit dimanche à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, précisément dans le quartier Ewa Bora Nkombo. La société civile tire la sonnette d'alarme et plaide pour le renforcement de la sécurité pour la protection des populations et de leurs biens. D'autres détails avec Peter Lunda, coordonnateur urbain de la nouvelle société civile congolaise, joint par Jean Gando.
Plusieurs maisons visitées par les malfrats non autrement identifiées vers 3h du matin. Derrière l'école Bernice, l'autre côté des rails, les biens des vallées ont été emportés. Ces gens étaient en possession des armes blanches. Ils ont frappé à coups de machette quelques personnes. Nous demandons que le gouvernement, les services compétents puissent vraiment ouvrir l'œil. Et nous avons aussi fait les plaidoyers auprès des autorités compétentes pour que le Souciat soit installé dans le quartier Ewabora Kombo. Il y a des endroits non habités, une brousse conservée, non exploitée. Nous lançons à corps et à cri cette demande que la paisible population puisse être encadrée.
Notons que l'une des personnes blessées a été transférée à Lubumbashi pour des soins appropriés à cause de son cas jugé préoccupant. Information confirmée aussi par le maire de Kasumbalesa. Nous allons parler cette fois-ci du conflit intercommunautaire entre les peuples Teke et Nounou. Depuis quelques mois déjà, dans la cité des Bolobo, le gouverneur du Maïndombe qui a passé 1 semaine de consultations dans les territoires des Bolobo s'est dit préoccupé de cette situation. Les Bonko Sokivani dénoncent l'instrumentalisation politicienne qui, selon lui, est à la base de ces tensions. Le gouverneur du Maïndombe sensibilise la population à ne pas céder à cette instrumentalisation et d'y prôner la paix. Nkoso Kevani, joint par Irène Mbomaluzolo.
Certes, les conflits entre communautés ne manquent pas. Mais ce qui s'est passé à Bolobo, donc, il s'agit vraiment de l'instrumentalisation des communautés par les politiciens. Donc, il y a un chef qui devait être intronisé, mais qui est, bon, l'autre partie n'a pas voulu que cette intronisation se passe à Bologo. Tout est parti de là, c'est ce qui a fait que la situation puisse dégénérer. Bien, aussitôt arrivé, on a pris pratiquement une semaine pour consulter, dans un premier temps, les communautés en conflit, et puis d'autres communautés hein, de la diaspora, si on peut l'appeler comme telle, et les hommes des églises, et la société civile. Voilà, nous avons dit à recueillir leur desiderata par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous leur avons dit clairement qu'ils ne doivent pas suivre la voie de ces politiciens-là qui sont en train d'allumer les feux. Parce que c'était vraiment des massacres très bien planifiés hein, qui devaient demain avoir lieu ici à Bologo. Je vous assure, nous avons épargné la cité de Bologo des massacres à grande échelle, comme c'était à Lundi, comme ce qui se passe à Kwamutu pour le moment.
Il faut résoudre le problème d'indiscipline qui mine notre justice et s'assurer de l'encadrement des jeunes magistrats qui entrent dans le métier. C'est une des attentes des syndicalistes quant aux résolutions qui sortiront des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui se tient ici à Kinshasa depuis hier. Réagissant au discours inaugural de ces travaux prononcés par le président de la République, l'intersyndicale des magistrats de la RDC salue plusieurs avantages obtenus du gouvernement, notamment la prime des brousses des magistrats, l'assurance santé et la prise en charge des funérailles des magistrats. C'est dans les bruits d'ambiance et des accolades des participants à ces assises que le secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats, Henri Dianda, s'est confié au micro de Jeff Ngaï.
En ce qui concerne le chef de l'État, son discours a été très équilibré et il a non seulement dit ce qu'il a pu faire pour que la magistrature de ce pays puisse aller de l'avant, mais également
il a insisté sur la moralité,
tout à fait l'intégrité. Il faudrait qu'il puisse avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et que cela puisse tenir pendant ces assises ici. Je parle comme syndicaliste là pour ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui avec l'assurance maladie pour les magistrats ainsi que les obsèques et tout. Et le chef de l'État a insisté également sur la rotation motivée des magistrats. Les magistrats ne doivent pas être en un seul point.
Vous attendez par rapport à ces assises?
Non, mais nous attendons à ce qu'au sortir de ces assises, que l'on puisse résoudre, discuter des questions essentielles, des questions épineuses qui minent notre justice.
Comme quoi, par exemple?
Non, mais je dis l'indiscipline, par exemple. Parce que nous ne disons pas, il y a toujours des avantages. L'indiscipline. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un lot de 5000 qui arrivent, mais il faudrait assurer leur encadrement. Il faudrait non seulement leur encadrement, comme ça, leur formation, qu'ils puissent rentrer dans la discipline d'un corps, qu'ils sachent qu'ils appartiennent à un corps.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont annoncé le 5 avril dernier la révocation de tous les visas accordés aux ressortissants du Sud-Soudan, une décision inédite contre un pays étranger de la part de l'administration Trump. Les premiers concernés en ont reçu la confirmation par courriel c'est lundi 7 avril. De son côté, Juba conteste les accusations américaines sur un refus de coopérer concernant l'acceptation de leurs citoyens expulsés. Les autorités sud-soudanaises affirment en effet avoir refusé l'entrée sur leur sol d'un Congolais inscrit, selon elles, par erreur par Washington.
L'invité.
Pour préserver la ville de Kinshasa des dégâts liés aux inondations, il faut non seulement du courage, mais aussi un poids politique significatif. C'est l'avis de Monsieur Kweteminga Colm-Pierre, âgé de 83 ans et résident depuis 1992 du quartier des Bonhommes, l'un des plus touchés par les inondations du week-end dans la capitale. Selon lui, la solution à ces problèmes réside dans une intervention ferme des autorités pour mettre la population à l'abri. Monsieur Kweteminga Colm-Pierre s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Kweteminga Colm, bonjour.
Bonjour Madame Rosalie.
Vous êtes parmi les notables de ces quartiers parce que vous habitez ici depuis plus de 30 ans. Pour vous, c'est un quartier qui au départ ne devrait pas être habitable.
Ce terrain au départ, c'était une ferme de Monsieur Pierre de Bonhomme qui habitait au niveau de la deuxième rue avec ses travailleurs. Avec la zarianisation, il a été obligé de lotir son ancienne ferme et de couper en parcelles. Il y a des gens qui ont acheté directement ces parcelles chez lui. Il était encore vivant. Mais c'est un terrain insalubre. L'administration coloniale belge l'avait classé parmi les terrains qu'on ne peut pas lotir pour l'habitation. Mais évidemment, avec la mentalité des Quinois, ils ne voyaient pas qu'il y avait un danger de lotir un terrain comme celui-ci et d'y construire des maisons. Et cela a continué. Il y a des habitations qui sont construites sur des vrais marais. D'ailleurs, Le nom officiel de notre quartier des Bonhommes, c'est quartier des Marais, effectivement. On ne peut pas aller construire des habitations dans des marais. Surtout, peut-être que les spécialistes savent qu'il faut certaines précautions, mais je ne crois pas que ces précautions ont été prises.
Avez-vous des souvenirs des inondations dans la ville de Kinshasa?
Oui, le souvenir des inondations dans la ville de Kinshasa, c'est lui qui m'a le plus marqué, c'est le vendredi 29 mai. Retenez bien le mois, au mois de mai, le 29 mai 1990. Il y a eu plus de 150 morts d'inondations dans la ville de Kinshasa. Et là, ce n'était pas de ce côté de l'Est, mais à Bandalungwa, le long de la rivière Makelele. Si maintenant il y a un pont qu'on appelle Lunda Bululu, c'est parce qu'à cette époque, Lunda Bululu était premier ministre et les ponts qui existaient à cet endroit étaient déchués, laissés par la colonisation belge. On a dû les détruire puisque quand il y a eu inondation, les eaux sont montées au-dessus du pont. Et à cette époque-là, le président Mobutu a dû révoquer, je ne vais pas citer son nom, le ministre de la Santé de l'époque. Et on a dû dénombrer, rien que le long de la rivière Makelele, à partir de Bandal jusqu'au fleuve, plus de 150 morts. Et on a construit le pont que vous voyez là, maintenant. Mais on ne devait pas s'arrêter là. Ah oui, j'ai oublié qu'on a délogé tous les habitants le long de Makelele. On leur a trouvé des parcelles dans la commune de Lancelé et on avait démoli, puisque beaucoup de maisons étaient même démolies par l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des parcelles pour déménager, ils ont fait semblant de déménager, mais ils sont revenus sur le site. Et de temps en temps, à Makelele, il y a des morts.
Et maintenant, pour terminer, de manière globale, pour la ville de Kinshasa, c'est quoi la solution?
Bon, le mal étant déjà fait, on a loti des terrains qui ne devaient pas être lotis. Mais maintenant, je crois que les experts ont déjà fait des études pour assainir. Et là où il faut détruire, il faut détruire. Mais le fera-t-on? C'est ça ma question. Là où il faut démolir pour sauvegarder des vies humaines. Mais là, il faut avoir le courage et le poids politique. Vous savez qu'à un moment, les Français disent « trop de démocratie tue la démocratie ». On va vous dire « c'est illégal, c'est ceci ». Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne des décisions des dictatures dans l'intérêt général.
Monsieur Kweteminga Pierre, je rappelle que vous êtes habitant du quartier des Bonhommes depuis plus de 30 ans. Merci.
Merci, madame.
Notre invité était avec Rosalie Zawadi. Ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jordan Blaise Shindani Kambala et supervisé par Martin Sebujangwe. Pierre Diassinoa était à la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi à la présentation. Merci.